Les parts actualités. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mars 2017, Clotilde Seil en votre compagnie sur les ondes de Canal M pour vous présenter ces paractualités avec les titres du jour, de véritables ambassadeurs écologiques à curé Antoine Labelle. Et puis l'Association du Québec pour l'intégration sociale interpelle le gouvernement. Au Saguenay, transport adapté, une hausse des budgets réclamés. Et à Québec, fini le sans rendez-vous au CLSC Hauteville. Droit de la personne, un jeune Manitobain handicapé exige une action du ministre Pallister. Et en France, des militants très critiques envers les grosses associations veulent remettre le handicap au cœur de la lutte pour les droits de l'homme. Deux entrevues aujourd'hui avec Stéphanie Leclerc, instigatrice de Le Chariot de Caroline. C'est un chariot de supermarché adapté. Et nous nous entretiendrons avec Marc Saint-Onge, directeur de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Alors, des élèves en déficience intellectuelle de curé Antoine Labelle, qu'on appelle aussi le CARL, figurent en première ronde des finalistes du 7e concours annuel « Donne des super-pouvoirs à ton école », écrit Sylvain Lamarre du Courrier de Laval. Parmi les 100 écoles retenues d'un océan à l'autre, on dénombre 20 établissements du Québec reconnus pour leur contribution à la protection de l'environnement, dont CARL. Les finalistes régionaux ont été sélectionnés par les représentants du Jour de la Terre Canada et de Staples Canada, bureau en gros. Il se rapproche donc du prix de 25 000 $ en articles technologiques. Les 10 écoles gagnantes seront annoncées le 22 avril prochain. Une cinquantaine d'élèves ayant une déficience intellectuelle, âgés entre 12 et 21 ans, prennent part à différents ateliers pour développer une autonomie fonctionnelle sur le marché du travail. Ils ont notamment fait le ramassage de tout le papier recyclable de l'école curé Antoine Labelle, laquelle comprend près de 2500 élèves et 250 membres du personnel. De plus, ils ont réutilisé le papier en fabriquant des bloc-notes à leur atelier de reliure. Les élèves font de l'aménagement paysager pour le campus qui leur permettra d'effectuer le grand ramassage printanier des feuilles et rebuts. Ils ont adhéré à l'atelier horticole où ils feront pousser des fines herbes et fabriqueront des pots à fleurs, etc. Ça donne l'exemple à l'ensemble des élèves. Ils verront à augmenter la superficie verte de notre campus, admet M. Robert. Les jeunes en veulent toujours plus. Il ne faut pas que ce soit routinier. Et puis, une friperie est aussi gérée par eux, permettant de donner une seconde vie aux uniformes. Certains participent également au conseil des élèves et l'influence même. Suite à la publication du plan d'action gouvernemental sur le trouble du spectre de l'autisme, l'Association du Québec pour l'intégration sociale souhaite rappeler au gouvernement et à la population que de nombreux besoins existent toujours pour un ensemble de clientèles similaires aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, dont notamment en déficience intellectuelle. Rappelons que le réseau de la santé et des services sociaux a été marqué par d'importantes coupures et réductions de services dans les 10 dernières années, mettant à mal la quantité et la qualité des services. Ces compressions ont d'ailleurs été particulièrement difficiles dans le domaine de la déficience intellectuelle et ce, malgré l'augmentation des besoins et des situations problématiques. Les cas de familles en détresse nous contactant n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, notamment à cause des diminutions de services et des compressions budgétaires en déficience intellectuelle et en soutien aux familles, a affirmé Mme Annick Larose, directrice générale de l'AQIS. Mentionnons également que cette diminution de services faisait notamment suite au regroupement des clientèles du trouble du spectre de l'autisme avec celles en déficience intellectuelle. Il est clair que le gouvernement a indirectement déshabillé Pierre pour habiller Paul, suite à ce regroupement de clientèle, a insisté Mme Larose. Rappelons que le gouvernement a procédé à ce regroupement en affirmant qu'il était préférable de rassembler les personnes ayant des besoins similaires plutôt que de les diviser sur la base de diagnostics médicaux et psychosociaux. « Il y a des initiatives qui méritent d'être saluées et celle dont on va parler maintenant en fait partie. J'accueille, ou plutôt, bah oui, je l'accueille malgré tout, même si c'est au téléphone, Stéphanie Leclerc, instigatrice, voyons, de Le Chariot de Caroline, un chariot de supermarché adapté. Bonjour Stéphanie Leclerc.
Bonjour.
Bah écoutez, quelle bonne idée que ces chariots adaptés. Bon, d'abord, comment c'est né cette idée-là, Madame Leclerc? Et puis, depuis combien de temps maintenant est-ce que c'est disponible? Est-ce que vous en faites la promotion? J'ai 10 000 questions pour vous.
Oui. Ben, en fait, la petite histoire derrière ce chariot-là, c'est que c'est une maman aux États-Unis qui s'appelle Madame Drew Ann Long, oui, qui a créé ce chariot-là parce que Elle est la maman de Caroline, d'où le nom du chariot.
D'accord.
Qui vit avec le syndrome de Rett. Et à un moment, elle s'est bien rendue compte que c'était rendu impossible pour elle d'aller faire les courses avec sa fille qui n'entrait plus dans l'espace pour les petits-enfants, mais qui était non mobile. Elle ne se déplace pas, elle ne marche pas, sa fille. Donc, elle a essayé de trouver des
solutions. Oui.
Ben oui, elle a essayé de voir ce qui existait. Ben, elle s'est bien rendue compte qu'il n'existait rien. Donc, elle a créé ce chariot-là. Et puis, elle a fait toutes les étapes là, de création, est allée chercher son brevet, elle a trouvé une entreprise, une compagnie là, qui le fabrique et qui le manufacture. Mm-hmm. Puis, c'est Audrey Rouleau, une autre maman et moi, qu'on a découvert ce chariot-là par le biais de groupes de soutien parce que chacun, elle et son garçon, a le syndrome d'Angelman. Moi, ma fille a le syndrome Phelan-McDermid. Donc, chacune dans nos groupes de soutien respectifs, on avait entendu parler de ce chariot-là par d'autres parents qui étaient aux États-Unis. Puis, on a fait des recherches et toutes les deux ensemble, sans se coordonner, on avait fait des démarches pour réussir à en avoir au Québec. Donc, elle a réussi à avoir un premier chariot là, en automne 2015. Ici, nous, on est dans la ville de Québec.
Oui.
Puis, moi, je faisais mes démarches un peu en même temps. Moi, ça a été un petit peu plus long avec le chariot arrive. Puis, ensemble, on a créé une page Facebook pour faire connaître ce chariot-là. Parce qu'en fait, il y en avait au Canada depuis 2013, mais au Québec, il n'y en avait pas nulle part.
Ah,
puis,
okay.
Pour réussir à en avoir, en fait, il faut que les proches aidants, que les parents fassent des demandes aux commerçants, au commerce qu'ils fréquentent, pour que ce commerçant-là fasse une commande auprès d'une compagnie qui est au Canada, qui prend les commandes au Canada, parce que ça... On ne résout pas, ça ne passe pas directement par l'entreprise américaine.
OK, d'accord. Donc là, si je vous suis bien, pour les gens qui nous entendent, ensuite d'ailleurs vous allez nous décrire un petit peu à quoi ça ressemble ce chariot-là, mais pour les gens qui seraient intéressés en ce moment, pour les parents par exemple d'enfants lourdement handicapés, il n'y a pas de moyen de s'en procurer via les États-Unis, mais par contre, si je vous comprends bien, c'est le commerçant qui peut en faire la demande. Il faut donc que les parents en fassent eux-mêmes la demande à leur commerce. Est-ce que c'est bien cela?
Oui, c'est exactement ça.
Bon,
c'est
d'accord.
Succursale par succursale, il faut que les gens fassent une démarche pour faire connaître ce chariot-là qui n'est pas encore beaucoup connu aux commerçants, qui explique un peu le besoin d'avoir ce chariot-là. Puis ensuite, le commerçant peut demander à l'entreprise. La compagnie, c'est Carry All, qui est à Montréal. Donc, elle offre le service en français et en anglais. Et c'est cette entreprise-là là, qui s'occupe de faire les commandes et les livraisons auprès des commerces.
Carry All, c'est comme carry, tout, comme porter, puis all comme tout, c'est ça?
Oui, exactement. C'est
d'accord.
C-A-R-I, trait d'union A-L-L.
OK. Point C-A?
Je pense que c'est .com, mais ils ont
d'accord.
Le numéro sans frais, le 1-888-640-1414.
D'accord. Parce qu'à un moment donné, là, j'ai des documents sous les yeux. L'outil indiquait qu'il y avait 10 adresses au Québec alors qu'il y en avait plus de 25. Alors, je comprends mal. On pouvait finalement se le procurer, cet outil-là? Qu'est-ce que ça veut dire?
L'outil, ben, probablement que vous parlez, c'est que la page, le site Internet de Caroline Scott, qui est aux États-Unis, recense les endroits où sont disponibles les chariots. Donc, il y en a pour les États-Unis. Puis, il y a aussi un autre outil, c'est une liste là, qu'on peut faire dérouler pour les adresses au Canada.
Ah,
on peut
faire
un tri par province.
Oui.
C'est simplement que Carry All envoie la mise à jour des nouvelles adresses à Caroline Scott par cycle. Donc, c'est pas toujours en temps réel, là, l'outil.
Je comprends bien. Bon, alors, à quoi ressemble ce chariot-là, Madame Stéphanie, Madame Leclerc, Stéphanie?
C'est un chariot d'épicerie et au lieu d'avoir la portion qui fait qu'on peut emboîter les chariots les uns des autres, dans
oui.
les autres, là, la portion qui se relève et qui contient un espace, une espèce de siège là, pour mettre les petits-enfants,
oui,
mais
oui.
ça, cette portion-là n'est pas là. C'est plutôt remplacé par une espèce de gros siège, une grosse coquille qui peut soutenir, peut asseoir sécuritairement une personne de 35 à 250 livres. Donc, c'est pas seulement pour les enfants, là, ça peut être aussi pour les personnes...
Pour les adultes.
Oui, pour les personnes
bien
âgées. Il y a vraiment une foule de problématiques, là,
ben
des
oui.
situations particulières
ben oui.
là, que ça vient couvrir vraiment un large spectre de besoins. Mmh. Donc, ce siège-là, en fait, possède un harnais à 5 points. Les poignées également se retournent pour qu'on puisse avoir l'espace requis là, pour asseoir la personne. Et il y a des freins pour pas que le chariot roule avec nous pendant qu'on assoit la personne.
Bien
Puis,
sûr.
Puis la grille du bas, elle est un peu plus longue vers l'arrière, vers là où la personne pousse. Comme ça, la personne qui est assise, ses pieds ne traînent pas par terre, mais sont plutôt
ah,
bien
oui, hein.
installés là, sur l'espèce de plateau là, du bas de chariot.
Mmh.
Donc, Madame Long a vraiment pensé à tout.
À
c'est
tout,
vraiment
hein?
Sécuritaire. Puis c'est pas que seulement pour les gens qui ont des problèmes de mobilité. Donc, moi, ma fille, elle marche. Par contre, elle a une déficience intellectuelle. Elle ne parle pas. Puis elle aime ça, vider les tablettes, se sauver. Donc, moi, je peux l'asseoir là-dedans.
Oui.
J'ai pas besoin. Je peux pas pousser sa poussette adaptée et le chariot en même temps. Donc, ça, c'est... c'est la situation
oui.
qui se présente pour les gens qui sont en chaise roulante. On peut pas pousser et la chaise roulante et le chariot en même temps. Donc, puis ça peut aussi aider les enfants autistes, des fois, étant donné qu'ils sont face à la personne qui pousse.
Ben
je
oui.
dis enfant, mais c'est aussi ado et adulte.
Mm-hmm.
Donc, ils ont le contact visuel avec la personne qui pousse. Sont un petit peu plus, étant donné la façon dont le siège est fait, un petit peu plus enfoncé là, dans le panier. Donc, ça crée un petit peu... pas vraiment une bulle, mais il y a un petit peu moins là, de contact
mm-hmm.
direct avec la foule autour, donc ça peut être un peu plus rassurant là, pour
oui.
les personnes qui ont de la difficulté là, avec beaucoup de mouvements puis beaucoup de gens. Donc,
eh bien, c'est vraiment, en tout cas, je trouve l'idée fantastique. Alors, je voudrais rappeler, Madame Leclerc, aux auditeurs qui se sentiraient concernés par cette innovation, par ce chariot de Caroline, que pour se le procurer, le mieux, allez faire une demande à votre commerce, là où vous avez l'habitude d'aller faire votre épicerie. Et c'est le commerce qui va rentrer en contact avec Carrie Hall, donc C-A-R-I, trait d'union A-L. Elle, pour pouvoir éventuellement avoir un, deux ou trois machines comme celle-ci à disposition pour les personnes handicapées. C'est bien ça, hein? Voilà.
Oui, exactement. Puis pour toutes les nouvelles, puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle adresse qui s'ajoute, moi, j'invite les gens à venir suivre la page Facebook qu'on a créée qui s'appelle Caroline's Cart au Québec. Donc, nous, on peut soutenir les gens qui ont des fois des questions sur comment ça fonctionne. Puis,
d'accord.
Dès qu'une nouvelle adresse existe, nous, on la diffuse par le biais de cette page Facebook-là pour que la nouvelle soit connue du plus grand nombre.
Est-ce que c'est juste un nom en français, en anglais, ou vous avez un nom en français aussi?
Bien, étant donné que le chariot, je veux dire, il y a un droit d'auteur là-dessus, il y a une propriété intellectuelle.
Bien sûr.
On n'a pas francisé le mot. Donc, le chariot s'appelle Caroline's Cart. Donc,
d'accord.
La page s'appelle Caroline's Cart
bien
au
sûr.
Québec.
Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Mme Leclerc. Et puis, bravo. Et je suis contente que vous ayez pu nous en parler ce matin.
Oui, bien, merci de nous avoir invités. Merci
mais de
énormément.
Rien. De rien. Bonne journée, madame. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Par actualité régionale, les budgets alloués par le gouvernement du Québec pour financer le transport adapté doivent être haussés pour répondre adéquatement aux besoins, affirment les députés Sylvain Gaudreau et Mireille Jean. Les deux élus du Parti québécois ont profité du passage à l'Assemblée nationale d'usagers du transport adapté du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de formuler certaines revendications au gouvernement. C'est que les statistiques démontrent qu'au cours des dernières années, les besoins en transport sur le territoire de Ville-Saguenay ont augmenté de façon substantielle, tandis que la contribution du gouvernement au financement régional a chuté. Le porte-parole de l'opposition en matière de région, Sylvain Gaudreau, affirme que le gouvernement doit réviser ses méthodes d'attribution de financement aux transports adaptés afin de tenir compte de la superficie couverte par un service donné. Pour la députée Mireille Jean, ce réinvestissement est nécessaire pour ne pas compromettre les chances des personnes vivant avec un handicap du point de vue scolaire et socio-professionnel. À Québec, finit le sans rendez-vous au CLSC Haute-Ville, apprend-on par Joanne Roy dans le Journal de Québec. Depuis le début mars, le CLSC Haute-Ville restreint les consultations sans rendez-vous aux seuls patients inscrits, ce qui prive plusieurs résidents du secteur de ses services de proximité. Cette unité de médecine familiale, UMF, qui compte 15 médecins, était la seule à la Haute-Ville à offrir du sans rendez-vous aux personnes n'ayant pas de médecin de famille ou ne pouvant voir celui-ci rapidement. La décision des médecins suit les orientations ministérielles visant à inscrire un plus grand nombre de patients. Pour ce faire, il a fallu dégager du temps de médecins en mettant fin aux consultations pour les patients non inscrits, affirme le directeur de l'enseignement et des affaires universitaires au CIUS de la capitale nationale, Martin Lafleur. Ce dernier n'a pas été en mesure de préciser le volume de consultations sans rendez-vous qui est ainsi supprimé à l'UMF Haute-Ville. Plusieurs résidents de la Haute-Ville, dont des personnes âgées, n'ont pas de véhicule. Selon la porte-parole du CIUS, Annie Ouellette, quand on fait le choix de ne pas avoir de voiture, le taxi est de mise. Et pour les personnes à mobilité réduite, ça prend le soutien de proches. Sachez aussi que depuis l'automne 2016, le CLSC Haute-Ville n'offre plus de services de prélèvement. Nous avons l'habitude de nous entretenir avec lui et c'est une très bonne chose pour en apprendre un peu plus sur les loisirs qu'on peut offrir aux personnes handicapées. C'est M. Marc Saint-Onge qui est d'ailleurs directeur de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. On s'est dit, bon, avec le printemps qui approche peut-être enfin la remontée des températures, on va en savoir un petit peu plus sur ce qui vous sera offert. Bonjour M. Saint-Onge.
Bonjour, Madame C.
Vous allez bien?
Mais je vais très bien, oui.
Bon, écoutez, en quelques mots, votre organisme, hein, vous vous occupez vraiment plus spécifiquement de loisirs pour les personnes qui peut-être en manquent un peu plus que les autres.
En fait, la QLPH, l'Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées, agit sur le plan national. Dans chacune des régions, il y a une association régionale ou une URLS, une unité régionale de loisirs et sports, qui collabore avec nous. La QLPH, son mandat, c'est simplement de faire la promotion et le développement de l'accessibilité loisirs pour les personnes handicapées. Oui.
D'accord. Alors, au menu, si j'ose dire.
Oui.
Bon, par exemple, on parle de loisirs inclusifs. J'ai l'impression que c'est de plus en plus répandu comme idée de société. Est-ce que je me trompe?
Bien, je vous dirais, c'est une vieille, jeune idée.
Ah oui, c'est ça.
On a commencé, vous vous souvenez peut-être, en 1960, on a commencé à faire beaucoup de désinstitutionnalisation dans le domaine de la santé mentale, notamment. Nos asiles qu'on fermait, bon, tout ça. Et on a commencé à s'intéresser beaucoup à l'aspect du loisir, comment il peut faciliter, soutenir l'intégration des personnes dites différentes. Alors, c'est une jeune, vieille idée que le loisir inclusif. On modernise beaucoup cette idée-là aujourd'hui avec la notion d'inclusivité, hein, dont la racine est véritablement autour de l'intégration sociale. Et nous, on s'est posé de nombreuses questions en se disant, mais qu'est-ce que c'est que le loisir inclusif? Qu'est-ce qui fait que je suis intégré? Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a de nombreuses contraintes financières, de mobilité, de transport, d'accessibilité à du matériel, à des lieux, d'avoir besoin de quelqu'un. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va être considérée comme intégrée?
Oui.
Qu'est-ce qui amène une personne, malgré l'ensemble des contraintes, à vouloir faire quelque chose? Toutes ces questions qu'on s'est posées avec mes amis et collègues, Hélène Carbonneau et Roger Quentin, nous ont amenés à comprendre d'une façon plus fine l'expérience de loisir. Donc, qu'est-ce que la personne vit dans son loisir? Ça devenait drôlement riche et intéressant pour nous pour démocratiser, je vous dirais, cette notion d'intégration. Parce que quand je travaille avec des gens dans des municipalités, en fait, je travaille avec l'ensemble du Québec, et souvent on dit, bien, l'intégration, c'est être intégré comme tout le monde, puis faire comme tout le monde à tout prix.
C'est pas forcément ça, oui, c'est ça. Ben c'est plus subtil, oui.
Oui, c'est intangible. Qu'est-ce que c'est que l'intégration? Quand je suis intégré, quand je suis désintégré? Mais en même temps, pour nous, on se disait, est-ce qu'on peut ramener cette notion-là autour de l'expérience? Qu'est-ce que vit la personne lors de sa période d'activité de loisir pour arrêter de dire que ma soirée que je offre à mes personnes qui ont une déficience intellectuelle de danse le vendredi soir, c'est pas bon, puis il faut qu'elles soient intégrées comme tout le monde. Pour nous, c'est beaucoup plus nuancé que ça, en disant, ben non, c'est pas vrai. La personne qui a une déficience intellectuelle peut aimer énormément aller à sa soirée de danse, et c'est super intéressant parce qu'elle vit une expérience qui est riche pour elle.
Oui. Hein? Comme elle peut détester ça, comme nous, entre guillemets, gens normaux, je mets ça avec des énormes guillemets, hein, cher monsieur Satonge, évidemment, mais c'est ça pareil. On n'est pas, on a l'impression, là, si je vous entends bien, monsieur Satonge, ce que vous êtes en train de dire, c'est attention, nuançons, c'est pas parce que on va amener par exemple une personne qui vit avec une déficience intellectuelle soit à dessiner, à danser ou je sais pas quoi qu'on veut lui faire plaisir finalement.
Non, on veut qu'est-ce qu'elle a comme motivation?
C'est ça.
Qu'est-ce qu'elle veut faire? Oui. Qu'est-ce qu'elle a comme potentiel? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle a comme limite, bien sûr. Mm-hmm. Mais l'expérience de loisir nous invite à se centrer sur la personne elle-même davantage que sur l'objectif ultime que la personne soit comme
bien
tout
sûr.
Le monde.
Bien sûr, exactement. Alors, pour aller dans ce sens-là, comment ça se met en place, ça, alors?
Bien, d'abord, par une compréhension plus fine de qu'est-ce que c'est que la notion d'expérience. Ça se met en place aussi par l'accessibilité à des lieux physiques, à des équipements. Ça se met en place aussi par les possibilités accrues qu'a la personne de pouvoir avoir des échanges avec les gens autour d'elle, mais des échanges qui sont constructifs, qui sont positifs, qui sont réciproques pour un sens unique, mais pas de pitié. Donc, ça demande de la sensibilisation, ça demande de l'équipement, mais ça demande aussi le développement de facteurs personnels, hein, ce qu'on pourrait appeler des facteurs intrapersonnels qui appartiennent à la personne elle-même.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut lui demander?
Quels sont ses potentiels? Comment on l'accompagne pour développer ses potentiels d'autonomie? Et comment on ne souhaite pas mettre la personne dans des situations qui vont entraîner des stress trop grands? Il faut être dans une douce incertitude.
Et vous avez l'impression qu'en ce moment, c'est un facteur qui est négligé, ça?
Je vous dirais qui est travaillé sur une base intuitive par de nombreuses personnes. Ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre des mots pour qu'on soit capable de construire quelque chose ensemble et de modifier la vision à tout craint d'une intégration comme tout le monde.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est là qu'est un peu la nuance qu'on apporte et la spécialisation qu'on apporte dans notre réseau.
Oui.
Ce que j'apporterais comme autre élément de nuance, quand je dis ça, faut faire bien attention. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut se centrer sur l'expérience de la personne, mais pas confiner la personne non plus dans des lieux qui sont ségrégés, par exemple notre soirée de danse. Il faut que la personne ait accès à toutes les possibilités.
Mm-hmm.
Ça, c'est la nuance importante.
Oui, je comprends. Ça veut dire, s'il y a une soirée de danse organisée quelque part, est-ce qu'on peut ouvrir ça aussi à une personne qui présente une déficience et qui puisse avoir du fun entourée de monde, et c'est ça?
Oui. Et c'est aussi de continuer nos efforts pour amener la personne à pouvoir vivre des activités comme tout le monde, dans des lieux partagés par tout le monde.
Oui, exactement. Hein? Mais c'est ça. Donc, on est bien d'accord. Dites-moi, monsieur Satonge, à ce titre-là, évidemment, très, très rapidement, mais à quel type d'activité les gens en ce moment les personnes peuvent-elles rêver au printemps prochain en passant par votre association?
Ben, vous savez, moi, l'association, on n'offre pas de services
à
la population. Mais dans chacune des régions, il y a une gamme d'activités.
Voilà.
Là, ce qui s'en vient beaucoup pour les jeunes, ce sont les camps de jour.
Oui.
Dans les camps de jour, je vous dirais, il y a des efforts très, très, très imposants que les municipalités ont depuis, je vous dirais, peut-être 5-6 ans pour amener la possibilités, pour accroître les possibilités que les jeunes soient intégrés. Pour les il y a un trou de service, hein? Faut en parler aussi. Les jeunes qui sont entre 12 et 18 ans, qui sont handicapés, il y a des trous de services importants. Mais ce qui est intéressant, il y a des pratiques inspirantes qu'on pourrait appeler. Il y a des municipalités qui mettent en place des structures pour ces personnes-là. Je pense entre autres aux îles de la Madeleine, qui ont des choses super intéressantes pour les 12 à 18 ans. La ville de Québec, la ville de Montréal aussi propose des choses. Pour les adultes, ben, on travaille très fort à l'heure actuelle pour soutenir une pratique autonome. Nous avons la vignette d'accompagnement, la VATL qu'on appelle dans le jargon, qui permet, par exemple, la personne qui souhaite aller aux zoo de Grimbé va avoir a besoin d'un accompagnateur, donc permettre une gratuité à l'accompagnateur. Donc, ce sont des activités, on a 1500 sites au Québec à l'heure actuelle qui accueillent la vignette d'accompagnement. Alors, vous voyez, il y a comme de nombreuses possibilités.
Oui. Alors, informez-vous, hein, évidemment. Et là, je m'adresse aux gens qui nous écoutent. Monsieur Saint-Onge, c'est toujours agréable de vous parler. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées et que donc les gens peuvent aller dans l'association régionale, dans leur région respective, pour aller voir toutes les activités qui seront proposées.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Monsieur Saint-Onge.
C'est
bonne journée.
C'est un grand plaisir, Madame Sey.
Allez, au revoir.
Oui, au revoir.
Bye. Par actualité nationale, droit de la personne, un jeune Manitobain handicapé exige une action du ministre Pallister. Il est âgé de 21 ans. Il a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Manitoba quant au manque de ressources pour jeunes adultes vivant avec un handicap physique. La plainte évoquait la discrimination fondée sur l'âge et sur la capacité intellectuelle, car les personnes atteintes d'un handicap physique, dit la plainte, deviennent inadmissibles à une grande majorité des programmes d'appui lorsqu'elles atteignent l'âge de 18 ans, alors que les personnes ayant un handicap intellectuel continuent à recevoir du soutien. D'après l'avocate de M. Sylvester, c'est le nom du jeune homme qui a déposé une plainte, le ministère de la Santé soulève qu'il incombe à l'ORSW d'offrir des services. Ça, c'est un organisme à Winnipeg, mais celui-ci décline toute responsabilité quant à l'objet de la plainte, car c'est le ministère des services à la famille qui administre le programme des services aux enfants handicapés et les programmes des services d'intégration communautaire pour les personnes handicapées. Monsieur Tyson Sylvester, qui a déposé la plainte, habite tout seul dans un appartement. Il est non-voyant et il se déplace en fauteuil roulant. Et depuis qu'il est majeur et qu'il est installé tout seul, eh bien, il ne reçoit plus que 500 $ par mois en aide aux revenus et n'a plus droit aux services de transport. Ceci explique la plainte auprès du ministère. Voilà ce qui met un terme aux paractualités en ce lundi 27 mars 2017. Je voudrais remercier l'équipe qui travaille avec moi pour rendre cette émission possible. Je pense à Martin Forgue et je pense à Jean-Sébastien Laliberté. Merci à vous d'être là. Bonne journée à notre antenne et je vous retrouve demain matin à 11h30.